C'est Valérie pour Jade FM.
Radio G vous propose un nouveau podcast.
Eh bien bonsoir à tous, c'est votre émission Bang Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis.
Un
mercredi sur deux. Donc salut Pablo, salut Sébastien.
Salut Seb. Salut aux auditeurs.
Et aux auditrices,
hein, bien sûr. On fait un petit coucou à tout le monde. On fait un petit coucou aussi à Romain, lâcheur, hein, tu devais faire la technique, mais on voit bien.
Oui, mais c'est pour la prochaine fois.
La prochaine fois, tu te débrouilleras. Et un petit coucou à Anaïs.
Salut Anaïs.
Donc ce soir, on va vous parler de quoi? Comme d'habitude.
De cinéma, de séries et de bandes dessinées.
Et ben voilà.
Et de musique.
Et de musique,
of course.
Et on ne change pas une équipe qui gagne, quoi, finalement.
Et bien sûr.
Bah, voilà, c'est
et
sûr.
Tout ce qu'on aime.
Et ben, tout à fait, c'est l'éclitisme. Donc je vous propose de commencer éventuellement par un petit morceau de musique.
Oui.
Tranquillement.
Qu'as-tu dans ton panier?
Oh ben moi j'ai pas grand chose, hein. Ça c'est Pablo qui nous a appelé, qui nous a apporté sa petite playlist.
Mais sous vos conseils. Hein.
Et donc je vous propose de commencer par un petit AC/DC.
Ah oui, excellent.
Ah, ouais. Et c'est donc Rock or Bust.
Dans Bang Geek Mafia. Alors c'est pour Anaïs et Séverine, et puis Florence bien sûr.
Et ben voilà,
sur Radio G
101.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti, et c'est maintenant.
Are you ready?
you call me? Well, if you give me a chance, I was going to call you a crazy pig fucking dumbass pussy piece of shit.
Oh, brother, you're a dead man.
Et le mec, il prend cher.
Il prend cher.
Mais juste pour faire une transition tranquillement après ce bon morceau de AC/DC qui nous a bien récuré les oreilles, bien sûr, comme
ça
à chaque
plaisir,
fois.
Hein.
Ça fait plaisir.
Et tu sais ce qu'il disait, Francis Zégut?
Oui, vas-y.
Ça débouche les cajamiels.
Les cajamiels, tout à fait, tonton Z. Bon, on va commencer tout simplement par le cinéma, puis on va faire encore un petit générique. Celui-là, je pense que vous allez bien l'aimer aussi. Tcha.
Ah, mais c'est Romain, ça.
Ouais. À la flûte, Romain. Spécial dédicace. Il est trop fort. Alors, qui a été voir quoi,
moi.
Qui, où, quand, comment?
Alors, si ça vous plaît, ce genre de générique, c'est Shitty Flute, ça s'appelle.
ça fait saigner les oreilles.
Alors, moi, j'ai vu Armageddon Time au cinéma avec Florence, un film de James Gray, une nouveauté hein, qui a été aussi remarquée au Festival de Cannes 2022. Alors, moi, j'aime beaucoup James Gray. On en parlait avec Pablo tout à l'heure avant l'émission. Hein, c'est quand même lui qui a fait La Nuit nous appartient, qui a fait Two Lovers, The Immigrant, The Love City of Z et Ad Astra. Donc, un réalisateur qu'on aime beaucoup. Qui fait des films variés et toujours de qualité. Alors, Armageddon Time, c'est avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, le grand Anthony Hopkins, et Jeremy Strong. C'est une autobiographie, en fait. Hein. C'est l'histoire, on va dire, très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens à New York. Donc, clairement, c'est l'histoire de James Gray. Hein. Et dans les années 80, on est au début des années 80, c'est juste avant l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, en fait. Et c'est de la force de la famille aussi. Alors ça, c'est très américain, mais c'est pas fait, on va dire, de façon classique. Hein. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et puis, c'est la quête générationnelle du rêve américain. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce film, ça raconte quoi? Ça raconte donc l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle pas James Gray, hein, puisque quand même, il a changé les noms, mais on comprend que c'est lui, hein, qui s'appelle Paul Graff. Mais on comprend. Paul Graff, c'est un petit garçon du Queens, donc il vit dans une famille juive à New York. Et on est dans une ambiance légère, hein, c'est l'enfance, c'est la découverte comme ça, de la liberté en fait, d'un petit garçon. Et qui rencontre un copain, qui se fait un ami. Et cet ami, c'est un petit garçon noir américain. Mais c'est pas si simple que ça, même dans les années 80, hein, de se lier d'amitié quand on est un petit garçon blanc de la classe moyenne avec un jeune noir des quartiers défavorisés. Il se retrouve dans la même école publique, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Donc c'est un film sur l'amitié, bien sûr, vous le comprenez, et c'est aussi un film sur la lutte des classes, hein, très clairement. C'est très très clair dans ce film. C'est pour ça que quand je vous parle de la force de la famille, c'est pas l'éloge de la famille, hein. C'est de chaque côté, il y a des familles qui sont plus aidantes que d'autres, qui soutiennent plus ou moins les enfants. Et c'est lié souvent à des contextes financiers, à des contextes économiques, en fait, qui ne sont pas les mêmes. Hein, voilà. Parce que ce n'est pas forcément la volonté qui manque chez certains parents, mais ça peut être aussi les moyens financiers, hein, clairement. Et donc, le frère de ce petit garçon, lui, il est dans une école privée. Hein, et lui ne souhaite pas aller dans cette école privée. Il veut rester dans l'école publique avec son copain, quoi, avec son pote. Voilà. Et donc, vous voyez bien que c'est aussi tout un contexte. Voilà. Parce que les années 80, c'est quand même les années fric, les années Reagan qui arrive. On voit bien toute cette ambiance-là. Et ce petit garçon, lui, il est un peu à contre-courant de ça. Il ne veut pas rentrer là-dedans, en fait. Contrairement à tout le monde, hein, toute sa famille, etc. Même s'ils n'aiment pas Reagan, ils sont quand même dans ce mouvement-là. Et lui, il résiste, en fait. Ce petit garçon, finalement, c'est un résistant, c'est assez marrant. Et il y a beaucoup d'humour, c'est très chouette, hein. C'est un très, très beau film. Voilà. Donc, Anthony Hopkins, il joue le grand-père du petit garçon. Et le grand-père qui soutient son petit gars, en fait, parce que dans sa famille, on ne comprend pas la position de ce petit garçon qui est rebelle, et sauf son grand-père, qui le soutient, qui soutient aussi ses valeurs, finalement, hein, qui lui dit que tu dois défendre tes valeurs, finalement. Parce que son grand-père, lui, il est donc, c'est un juif qui a été, dont la famille a été déportée, etc. Donc, il a des valeurs qui sont anciennes, mais qui sont finalement assez fortes, et dans lesquelles se reconnaît son petit garçon, en fait. Voilà. C'est assez chouette, c'est très touchant.
Moi, je sais que j'ai vu la bande-annonce. J'ai pas été voir le film, mais j'ai vu la bande-annonce. Et c'est vrai que, déjà, ne serait-ce que dans la bande-annonce, ça donne envie.
Ouais. Ça donne envie. Alors moi, je vous le conseille, James. Carrément. Donc, c'est un film qui dure 1h55, donc ça va, c'est pas trop long. Il passe aux 400 coups en VO sous-titré. Là aussi, je vous le conseille vraiment. Il y a de très bons acteurs. Moi, Jeremy Strong, je le connaissais pas beaucoup. Je l'avais très peu vu. Il joue le père de Paul Graff. Il est vraiment très, très bien. C'est vraiment un homme de son époque, en fait, vous verrez si vous voyez le film. Et sa mère aussi, d'ailleurs. Anne Hathaway, elle est un peu dans un contre-emploi. C'est-à-dire qu'on la voit souvent dans des rôles de femme très, très moderne, etc. Là, c'est vraiment la femme au foyer. Enfin, vous voyez. Donc, voilà. Et pour finir, parce que je ne vais peut-être pas développer de plus que ça, j'espère que je vous ai donné envie de le voir, en tout cas.
Très, très, très. Pour finir,
je pense que James Gray, il avait aussi pour objectif d'essayer de nous faire comprendre comment Trump a pu être élu, c'est-à-dire que moi je vois
toi,
ça.
Toi tu as vu ce sous-titre un petit peu,
un peu ouais.
Filigrane un peu.
C'est-à-dire que en fait on voit que dans les années 80 il y a quelque chose qui se met en place aux États-Unis, une certaine mentalité qui se met en place, qui pourrait expliquer l'arrivée au pouvoir, l'élection de Trump beaucoup plus tard.
Ouais, si je peux dire un truc, c'est vrai que tu parles de ce changement des années 80. Aujourd'hui on commence à le mesurer, mais on le savait déjà, mais c'est vrai que l'arrivée de Reagan et de Thatcher, c'est le tournant néolibéral qui va s'imposer à toute la planète, en fait. Hein. Et c'est vrai que là, c'est intéressant de voir que ce réalisateur, tout en retraçant son parcours, prend une position un peu à contre-pied, ou en tout cas...
Oui, mais il a une position... Enfin, je veux dire, je pense qu'il a une conscience politique, en fait.
Ouais, clairement.
Tout simplement.
Tout simplement.
Voilà.
Enfin, qui n'a pas une conscience politique?
Mais c'est pas un film politique, hein. Non, c'est vraiment un film sur l'amitié, sur la famille, mais derrière, il y a quand même, il y a des valeurs, voilà, il y a un discours qui est intéressant. Voilà.
Peut-être aussi un petit peu une part de nostalgie de la part du réalisateur.
Oui, bien sûr, on est tous nostalgiques de notre enfance.
Tout à fait. Je vous propose de continuer...
Juste un petit mot, Seb, avant qu'on passe aux séries.
Oui.
Et qu'on écoute les Clash.
Voilà, t'as compris, moi.
Je voulais juste annoncer la 32e édition de la semaine de cinéma de langue espagnole.
Très bien.
Et c'est vrai que si Romain avait été là, on aurait pu développer davantage, mais on en parlera la prochaine fois.
Il est à l'amende.
Cette semaine de cinéma de langue espagnole donc, a démarré aujourd'hui. Non, mais on a tous des contraintes.
Non, mais il faut bien que je charrie un petit peu quand même.
Donc cette semaine-là de langue espagnole a démarré aujourd'hui, le 16 novembre. Ça dure jusqu'au 22 novembre 2022. C'est au 400 coups à Angers. Il y a 11 films et 6 événements autour de cette semaine-là. Moi, je vous conseille, alors je ne les connais pas tous, mais j'en connais quelques-uns. Je vous conseille Asbestas, qui est sorti en 2021. Un film franco-espagnol, mais avec Marina Foïs et Denis Ménochet. Mm-hmm. Un très bon film, c'est un couple de Français qui s'installe en Espagne, dans un petit village de Galice, pour restaurer des maisons, etc. Sauf que ce n'est pas si simple de gérer les conflits avec les voisins, puisqu'il y a des tensions liées à cette installation. Voilà.
Et je crois que tu en avais parlé dans une émission précédente.
Et je sais qu'Antonio, mon ami Antonio, l'a vu le film et a adoré ce film, donc je vous le conseille.
Ouais,
et puis il y a aussi El Buen Patron.
Ah oui.
El Buen Patron, sorti aussi en 2021 avec Javier Bardem. Hein, c'est l'histoire d'un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine. Donc, c'est deux bons films. Il y en a plein d'autres. Il y a un film de Carlos Saura, le grand cinéaste espagnol, Ay Carmela. Et puis, il y a un classique aussi, Soy Cuba.
Soy Cuba, oui.
C'est ça. Donc, on vous conseille cette semaine.
Il n'y a pas un petit Almodovar aussi, en même temps?
Ah non, bah justement.
Oh, non.
Almodovar est tellement célèbre que ce n'est même pas la peine de lui faire de la promo.
Ah bah non, mais non. Mais...
mais ça permet de découvrir des cinéastes espagnols,
bien
péruviens,
sûr.
Argentins. Je regarde s'il y a un Chilien, mais je ne crois
je
pas.
Ne crois pas cette
un Cubain,
ouais.
Mais voilà. Costa Rica.
Costa Rica. Ouais.
Costa Rica, c'est pas mal.
Un très bon documentaire chilien dont j'ai parlé la semaine dernière, Mi País Imaginario, mon pays imaginaire, et vraiment, je vous le conseille.
Donc voilà, on vous conseille d'aller au cinéma, retourner au cinéma, c'est
carrément. Donc
génial.
C'est au 400 coups, la semaine de...
Du 16 au 22.
En langue espagnole, parfait.
Bon, alors,
Muy bien.
Vamos. Un poquito de música.
Un poquito de música.
Oui, ça fait de l'italien espagnol. Hein.
Non, c'est pas mal.
C'est pas mal. Et ben, je vous propose d'écouter Les Clash.
Ouais.
Et tu nous proposais...
Armageddon Time, comme le titre du film de James Gray.
Et ben voilà, et c'est parti. Et c'est tout de suite. C'est
dans
sur Radio G.
Mafia.
Sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
On entend la chanson dans le film.
justice tonight. The battle is getting hard in this Irish Armageddon time. A lot of people running and are hiding tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it over. No one will guide you long in time.
Ce que l'on va parler
de Magnum.
Magnum, les séries.
La série qui a lancé les séries.
À toi, Pablo.
Bon, bah, alors, écoutez, allez, les amis, je vais vous parler d'une série qui est maintenant un petit peu ancienne, mais qui est magnifique. Et qui s'appelle Top of the Lake, de la réalisatrice Jane Campion et de Gérard Lee. Alors, c'est une série subtile et féministe, une enquête policière et psychologique au bord d'un lac du malaise, dans une nature majestueuse. Synopsis, je vous donne le petit synopsis de la première saison. Alors c'est une série en deux saisons, et là je vous parle de la première saison, mais en fait la deuxième aussi est très très agréable, très sympa, enfin, et malaisante.
Oui c'est ça.
Ouais, c'est ça. sympa et malaisante. Ouais, donc il faut préciser.
Si vous aimez le malaise.
Voilà, c'est ça. Lake Top est une petite ville néo-zélandaise située dans les Alpes du Sud, en bordure d'un lac de montagne. La série commence lorsque la jeune Tui Mitcham, c'est bien, 12 ans, est retrouvée par une institutrice à moitié immergée dans le lac. Emmenée à l'infirmerie du collège, on découvre qu'elle est enceinte de 5 mois. L'inspectrice Robin Griffin, ayant quitté son fiancé resté à Sydney, revient dans sa ville natale pour rendre visite à sa mère malade. spécialisée en protection infantile, elle est sollicitée par la police locale pour enquêter sur le probable viol de Tui. Lorsqu'elle l'interroge sur l'identité de son violeur, la fillette écrit sur un papier les mots « No one ». Ramenée chez son père et désorientée, Tui disparaît peu après. Donc une série de Jane Campion, une des plus grandes réalisatrices du cinéma indépendant contemporain, Palme d'Or à Cannes, 1993, avec son sublime The Piano ou La Leçon de Piano. Donc forcément, dans cette série, on retrouve ces thématiques. La douceur, qui peut être autant celle des femmes que celle des hommes, la brutalité du patriarcat et la violence faites aux femmes, le combat féministe pour la liberté, la difficulté ou complexité à être mère, l'interrogation sur la maternité. Alors ça, c'est un thème qui revient tout au long de la série, c'est vraiment un fil rouge. Et bien sûr, on retrouve son esthétique soignée. Nous suivons ici l'enquête de Robin, brillamment interprétée par Elizabeth Moss, l'actuelle interprète de la Servante écarlate. Telle une true détective, c'est une fine limier. Elle ne lâche rien. Elle a une intuition sûre, doublée d'un sens aigu de l'observation. Mais elle souffre d'un traumatisme du passé. Alors qu'elle vit à Sydney, en Australie, elle est appelée pour enquêter en Nouvelle-Zélande, dans cette île du Sud, à Lake Taupe, près de Queenstown, là précisément où elle a grandi, dans cette bourgade de Plouks, qu'elle a fui il y a des années. Autrement dit, cette enquête ne concerne pas seulement une disparition à résoudre, mais aussi des souvenirs enfouis à affronter. Pour finir, je cite Télérama. Tournée dans les profondeurs d'une nature magique et dévorante, au bord du lac Wakatipu, sur une île perdue au sud de la Nouvelle-Zélande, Top of the Lake est une œuvre moderne et déroutante, cocasse et anxiogène. Une créature à plusieurs têtes taillée sur mesure pour un nouvel âge d'or de la télévision. Elle fait se croiser acteurs de cinéma, notamment Holly Hunter, Peter Mullan et des figures du petit écran, Elizabeth Moss, et plonge les recettes du feuilleton policier du dimanche soir dans un grand bain d'images hypnotiques rêvées tout haut par une cinéaste à l'imagerie notamment débridée. Voilà, je vous conseille vivement la série Top of the Lake de Jane Campion. Ben voilà, merci de votre écoute.
Merci Pablo. Alors moi je l'ai vu cette série qui est sortie il y a quelques temps déjà. Oui. Et c'est vrai qu'on est dans une ambiance très particulière. On connaît peu la Nouvelle-Zélande. Et là en plus on est vraiment dans le fin fond de la Nouvelle-Zélande, dans la campagne néo-zélandaise. Et on a une ambiance un petit peu à la Délivrance. Moi je pensais à ça tout à l'heure plutôt, on avait cette référence-là. Voilà, une nature hostile un petit peu.
Tout à fait. Et moi ça me fait penser aussi à Fargo.
Oui, c'est vrai.
Avec ce côté grands espaces et en même temps on est chez les Plouks. Donc on a à la fois
les Plouks et les Plouks. Attention.
Pardon, hein. Ce côté, un peu baltringue, quoi.
Oui, et puis l'histoire est quand même assez sombre. Hein.
C'est sombre. Vu le départ, c'est sûr que là ça peut être que sombre. Hein.
C'est
à regarder quand on est déprimé.
non, parce qu'en fait, il y a du suspense aussi. Il y a une enquête, donc on suit cette enquête, mais bon, c'est un peu glauque. Quoi.
clairement.
Mais c'est super, hein, on vous le conseille.
Voilà.
Ouais.
Alors moi aussi, j'ai une petite série.
Allez, une petite série. Yo.
Alors c'est pour faire suite à ce que Romain, toujours lui, nous a dit l'autre jour, parce qu'il en a parlé déjà du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, assez rapidement.
Oui, absolument.
Et moi, je voudrais confirmer ce qu'il nous avait dit. C'est vrai que j'ai commencé à regarder. Alors, c'est une série donc, sur Netflix, il y a 8 épisodes. J'en ai vu 4 pour l'instant. Ça passe en ce moment. Hein. C'est des épisodes qui durent entre une demi-heure et une heure. Voilà, ça dépend, c'est variable d'un épisode à l'autre. Guillermo del Toro, alors, on retrouve pas mal d'acteurs connus. Et c'est une série d'anthologie sur la thématique de l'horreur, créé par Guillermo del Toro, et donc chaque épisode est signé par un réalisateur différent. Et que vous dire sur cette série? Plusieurs choses. D'abord qu'en fait, on a de bonnes petites histoires bien glauques, aussi, bien cruelles parfois, et en tout cas bien horribles, ça c'est sûr, c'est le but. Pour les amateurs du genre, il faut aimer les films d'horreur. Moi je trouve la réalisation de très haut niveau. Vraiment, c'est très très bien réalisé, avec quelques grands noms qu'on est content de retrouver, comme Vincenzo Natali, qui avait réalisé The Cube. Je ne sais pas si vous souvenez de ce film.
Si,
j'adore.
Voilà. Et pareil pour les acteurs, il y a des acteurs très connus, qu'on a vus dans des films ou des séries. Rupert Grint qui jouait dans Harry Potter, il y a F. Murray Abraham qui jouait dans Amadeus, enfin bon, mais ça fait pas tout. Ce qui est vraiment le plus réussi, c'est l'ambiance en fait, de bien dark, bien crade même parfois, avec du morbide et puis des références à Lovecraft, hein, c'est clair, pour des intrigues alors qui vont du moyen à l'excellent. Hein. C'est jamais nul. Quelquefois, bon, on se dit que ça aurait pu être plus développé. Quelquefois, c'est vraiment excellent. Les deux premiers épisodes sont assez classiques. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. C'est un peu comme Alfred Hitchcock présente, mais en gore.
Voilà. C'est ce qui manquait dans Alfred Hitchcock, hein, finalement,
oui,
le gore.
Oui. là, c'est... comment dire ? C'est une belle photographie, un travail sur le visuel. Après, je pense que certains vont apprécieraient plus d'action, je pense, plus de rythme, mais parce qu'on est sur l'ambiance. Hein. Mais je trouve que chaque épisode, quand même, a son intérêt. C'est intéressant à regarder. Voilà. Donc, collection de moyens métrages plutôt soignée, qui nous plonge dans des époques différentes, avec des registres horrifiques qui sont variés. Il y a du Lovecraft, il y a du Stephen King, il y a du Cronenberg. Chacun devrait y trouver son compte. Voilà. Cabinet de curiosité de Guillermo del Toro.
Magnifique.
Magnifique. Moi, je vous propose de continuer avec un petit morceau de musique. Et puis, comme on était sur le thème du sombre, du très très sombre,
oui.
Je ne sais pas, j'ai un petit groupe, Black Pumas.
Ah, Black Pumas. C'est vachement bien.
Alors, c'est Old Man.
Yes.
Et spécial dédicace à Sarah. Et puis à Seb aussi, parce que je crois que tu aimes bien.
Oui, j'adore. Oui. Dans Band Geek Mafia sur Radio G.
-5, la radio qui fait le point. C'est parti.
Si vous voulez nous joindre, appelez-nous, mais pas pendant les musiques.
Et pas pendant l'émission. Oh non. Non, c'est surtout quand c'est Momo qui a la technique, il ne peut pas tout faire.
Ce soir, c'est Momo, il assure.
Non, il assure pas.
Donc, il allez-y, appelez-nous.
Bah, tu gères. Moi, je ne pourrais pas. Là.
Sur nos téléphones portables.
Oui, voilà.
Alors, Seb, tu as une autre série ce soir.
Oui, une série
qu'on attend depuis longtemps.
Oui, bah oui, mais une série qui pose un problème quand même, hein, parce que si on regarde les avis que l'on peut trouver sur Internet, il y aura débat. À mon avis, il y aura souvent des avis négatifs. Oui, bah, souvent des avis négatifs, mais bon, là, je me dis, à mon avis, il y a un petit peu de holding. Donc, cette série, c'est Les Anneaux du Pouvoir, effectivement. Alors, bien sûr, elle a été diffusée sur Amazon.
HBO.
Non.
Non,
mais je ne sais pas moi.
OCS ?
Non.
Je l'ai pas regardé.
Non, sur Amazon Prime, c'est peut-être ça qui pose aussi problème. Je pense, à mon avis, c'est plus ça qui pose justement.
Ah bon, pourquoi ?
Ah bah,
tu vas nous dire.
Enfin bref, voilà.
Les Anneaux de Pouvoir.
Alors, Les Anneaux de Pouvoir, c'est une série qui se déroule environ 3000 ans avant les événements comptés dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Cette série prévue en 5 saisons. Alors, vous voyez, on a déjà prévu 5 saisons.
Ah oui.
Donc là, on vient de voir la première. Est fondée sur une histoire inspirée de la Terre du Milieu, telle que racontée par Tolkien. Elle commence durant une période de paix relative et couvre certains des événements majeurs survenus sur la Terre du Milieu durant le Second Âge. La création des Anneaux du Pouvoir de Pouvoir. L'histoire de la chute du royaume insulaire de Numenor. Excusez-moi sur la prononciation, l'ascension de Sauron et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Ces événements se déroulent sur plusieurs milliers d'années dans le récit de Tolkien, mais sont condensés et retravaillés pour la série. Donc voilà pour le synopsis. Alors pour l'instant, on a vu la première saison, 6 épisodes, et j'avoue que j'ai hâte de voir le reste, hein, parce que... Bon. Avec plein de surprises sur les derniers épisodes, sur les deux derniers épisodes, en tout cas sur le dernier encore plus.
Cliffhanger.
Yes, tout à fait. Et au moins. Non, j'ai pas dit 6 épisodes, j'ai dit 6 épisodes.
8.
Non, il y en a 10 normalement. Ah. J'en ai loupé quand même quelques-uns.
En fait, il a pas tout vu, il nous fait croire qu'il a tout vu.
Non, j'ai mes papiers qui sont... Ils sont pas bons, mes papiers. Oh. Non, c'est 6 épisodes, c'est bien 6 épisodes. D'accord. C'est assez rapide. Quoi qu'il en soit, les derniers épisodes sont pleins de rebondissements, mais surtout laissent le spectateur dans l'expectative, avec plein de questions encore, et donc c'est pour ça qu'on a hâte, en tout cas moi personnellement, j'ai hâte de voir la deuxième saison, parce que pour avoir tes réponses.
Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben moi je vais à contre-courant, de toute façon je...
Ça m'étonne pas.
Ah, voilà. Ça m'étonne pas, moi je suis à contre-courant. Honnêtement, pour moi, c'est une série qui est superbe. Elle est superbement bien menée. L'intrigue, elle est bien faite. On monte crescendo, hein, finalement. On trouve petit à petit des éléments de réponse, mais ce sont des petits éléments de réponse parce que finalement, les grandes questions, eh bien, trouveront peut-être leur réponse quand la totalité de la série sera diffusée. Donc voilà. Et puis surtout,
patience.
Surtout, on a un personnage qui apparaît assez rapidement. Qui tombe du ciel, on ne peut pas mieux dire. Et pendant tout le long, on n'arrête pas de se poser, finalement, mais c'est qui ce personnage ? C'est qui ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ?
Est-ce que c'est Sauron ?
Est-ce que c'est Sauron ?
Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ?
Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Et franchement, on ne sait pas. On commence à avoir des éléments, des brides de réponses, justement, à la fin de la saison. Et puis aussi, en même temps, Sauron, on en parle beaucoup. On ne l'a pas vu. Hein. On voit juste son œil dans Le Seigneur des Anneaux.
Oui, justement. Mais avant d'être un œil.
Avant d'être un œil, c'était un personnage.
Avant d'être le nécromancien.
C'était aussi un personnage. Après, on a un moment, justement, dans cette série, on voit un personnage qui est un nécromancien, un elfe nécromancien. On se dit, c'est lui.
Eh bien, oui. Eh bien, non. Ah, surprise. On ne sait pas.
Je ne dirai pas tout.
Est-ce qu'on visite un petit peu la Terre du Milieu, c'est-à-dire les monts brumeux, puisque tu as parlé de Numenor, bien sûr.
Oui.
C'est le royaume des elfes. Mmh. Mais est-ce qu'on visite d'autres contrées ?
On visite d'autres territoires qui n'apparaissent pas ou qui ont disparu, justement. Parce que finalement, l'histoire que l'on connaît, elle est plutôt centrée sur la Terre du Milieu.
Oui.
Donc là, on est sur les territoires qui sont aux bordures de la Terre du Milieu.
Ah, les marges.
Les marges. Donc, on découvre. Et puis, on a aussi presque quelques réponses aussi sur le voyage final des elfes vers le monde infini. Finalement,
oui, donc finalement, ça nous, enfin, comment dire ça, ça crée un petit peu la base de la mythologie qu'on connaît, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, et puis on recherche. Alors c'est ça qui est intéressant aussi en même temps, parce qu'on est tous pareils. On a été marqué quand même par le Seigneur des Anneaux,
par les films de Peter Jackson, par les livres,
par le Hobbit et tout ça. Et là, on cherche, on est là, on est en train de chercher justement les petits liens. Mais ça, quel personnage, ça fait référence à quel personnage, puisqu'il faut pas oublier quand même que dans Tolkien, dans les films de Peter Jackson, dans le livre de Peter Jackson, pas de Peter Jackson, de Tolkien aussi en même temps, on a des personnages, mais c'est pas des personnages qui sont nés, qui ont une vingtaine d'années ou qui ont 90 ans. Pour certains, c'est des personnages qui ont plus de 1000 ans d'existence.
Comme Elrond, Galadriel.
Et puis aussi le personnage, un des personnages centrales aussi dans la trilogie. C'est quand même Gandalf aussi en même temps, qui est un personnage un peu particulier.
Gandalf jeune
peut-être, et Saruman, faut pas oublier non plus Saruman.
Et Isildur.
Et puis il y en a un autre aussi en même temps, mais
tous les mages.
Voilà, les mages sont très très âgés en réalité.
Est-ce qu'on a aussi des nains comme Durin?
Alors on a les nains, ben justement on a cet univers des nains que l'on découvre aussi dans les films, mais ou dans le Hobbit aussi, mais malheureusement un petit peu trépassé, comme on peut dire. Donc voilà, non, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, moi, pour moi, je me suis laissé happer par la série vraiment beaucoup plus facilement.
Et alors, dis-moi, l'esthétique, qu'est-ce que t'en as pensé?
Pour moi, esthétiquement, c'est bien.
D'accord.
C'est bien. Non, mais c'est franchement, on a des scènes. Moi, je trouve des scènes, notamment l'explosion du volcan à un moment fatidique. C'est franchement.
Est-ce que tu n'en dis pas trop?
Non, j'en dis pas trop et je n'en dirai pas plus non plus. Il y a une explosion de volcan, mais voilà, une explosion de volcan, c'est une explosion de volcan. Mmh. Et on a justement cette boule de feu, de fumée qui se déverse sur les terres et qui ravage tout. Et franchement, voilà quoi, c'est. Moi, je trouve qu'il y a, quand même, on retrouve aussi, il y a quand même ces paysages aussi, parce que les paysages qui ont été utilisés, certains ont été ceux du film aussi en même temps, donc on retrouve un petit peu cette grandeur.
Excuse-moi Pablo, j'avais une petite question. Vas-y. C'est par rapport aux affrontements, parce que dans les films de Peter Jackson, il y a beaucoup d'action, beaucoup de batailles épiques. Là, on est dans une série, c'est pas le même format. Est-ce qu'il y a quand même des affrontements entre les personnages dont on vient de parler et puis la réapparition du mal en Terre du Milieu?
Entre les orques et les elfes, entre les humains, oui, effectivement, il y a des batailles. Alors c'est sûr. Comme on est sur un format court, on ne va pas avoir des batailles qui vont faire 20 minutes ou 30 minutes. Et en tout cas, ce ne sera pas des batailles qui seront dans le noir. certaines séries, dont je tairai le nom. Mais non, les batailles sont bien faites. La chevauchée des cavaliers, on a une chevauchée des cavaliers, certes, qui n'est pas celle dans Le Retour du Roi, du tome 3, c'est sûr. Là, on a pas cette grandeur, mais on n'a pas le même nombre de cavaliers non plus. Il faut rester raisonnable. On n'a pas les mêmes moyens financiers, je pense. Mais au final, ça se laisse regarder avec plaisir.
Et alors moi, j'avais une dernière question par rapport à les acteurs. Dis-moi un petit peu les acteurs, parce que c'est vrai que si on fait la comparaison, Peter Jackson, la force du film, c'est aussi d'avoir un casting de dingue.
Oui, mais c'est des acteurs qu'on a découverts, parce qu'ils, par exemple, c'est vrai, excuse-moi un peu, mais je réfléchis en même temps.
Oui, tout à fait.
Viggo Mortensen, il a commencé sa carrière comme ça.
Il y avait Kate Blanchett, par exemple.
Ouais, mais c'est pareil, ils étaient tous en début de carrière.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, je me permets de dire ça parce que finalement, moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des films, les films de Peter Jackson, qui ont révélé des acteurs.
Ouais, absolument.
Plutôt que de réemployer des acteurs connus. Enfin, je sais pas. L'acteur qui joue Gandalf. Ah, si, peut-être que
si Gandalf aussi, il est très connu.
C'est pas Ian McKellen ou un truc comme ça.
Je crois. Ouais.
Non, mais c'est voilà. Là, on a des acteurs qui sont relativement jeunes, peut-être un peu moins connus, mais en tout cas des acteurs aussi qui, par certains de leurs traits, rappellent les acteurs qui ont joué justement dans le film. Galadriel, Morfydd Clark, qui est donc l'actrice qui joue Galadriel, jeune. cette Galadriel, par certaines manières de filmer, certaines poses de visage, on retrouve presque la Galadriel des films. Et je viens de relire mes notes, hein, c'est pas 6 épisodes, c'est 8
épisodes. Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc voilà. Une petite question, oui.
Non, mais c'est vrai que c'est une série qui nous intrigue. On a bien adoré les livres, bien sûr, de Tolkien, bien les sûr. Films de Peter Jackson, donc on a envie que ça nous plaise. Donc comme tu l'as vu et que ça te plaît, bah, nous, on est motivés, je pense. J'espère que ça donne envie à tout le monde.
Bah, j'espère. Moi, sincèrement, je vous conseille... c'est comme juste. À chaque fois, c'est les avis en plus, c'est des avis sur Internet, et voilà quoi.
Moi, j'ai toujours un truc qui m'a. Alors, même dans les films de Peter Jackson, qui m'a un peu. Alors, dérangé, c'est peut-être un grand mot, mais que je trouve toujours un peu raté. Alors, tu vas me dire si c'est. Sauf pour certains elfes, mais globalement, les elfes, je les trouve. Enfin, autant les nains, je les trouve hyper bien réussis. Ouais. Autant les elfes, je suis toujours un peu déçu. Bon, je sais pas comment ils sont là dans la série.
Ils sont trop beaux, trop purs, trop.
Non,
parfaits,
je sais pas, c'est les oreilles ou je.
Ah bon, mais non, ils sont magnifiques. Mais
non,
c'est
mais
vrai
je sais
que
pas, moi j'ai pas toujours trouvé.
Je les
elfes,
trouve, à part Elrond qui a ce côté un petit peu hybride parce qu'il est semi.
C'est un semi-elfe.
Ah, voilà. Lui, il a ce côté un peu sombre, mais Galadriel aussi, elle l'a. Mais c'est vrai que sinon, on a l'impression qu'ils sont un peu éthérés, un peu à part. Mais c'est vrai que dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont déjà sur le départ.
Ils sont sur le départ, ils partent vers leur monde, voilà. Monde quoi. Enfin bref, qu'on pourrait presque apparenter au paradis.
Alors que toi, tu dis dans la série, là, ils sont plus complexes.
Ils sont beaucoup plus complexes. On a affaire à des elfes beaucoup plus complexes. Ils sont pas aussi blancs que ça, quoi. Ils sont. Je peux pas trop en dire non plus.
Non,
hein, parce
non,
que
non,
c'est.
Je dis pas trop.
C'est clair que. Ils ont un côté, là on voit quand même qu'ils ont des côtés qui peuvent effectivement être extrêmement dérangeants. Donc voilà, l'elfe n'est peut-être pas aussi propre qu'il voudrait.
Pas aussi pur.
Mais
ouais.
Peut-être pas aussi pur.
Il
ouais,
y avait Arwen qui était bien.
Ouais. Oui.
Mais c'était une semi-elfe aussi, non?
Non,
c'est la fille.
Ah, ouais. Bah, quoi que
si, c'est la fille d'Elrond.
C'est la fille d'Elrond, donc ouais. Elle est semi-elfe.
Et ouais, c'est ça.
Donc voilà. Donc moi je vous conseille quand même d'essayer de regarder.
Magnifique. Bon, on va essayer de trouver ça.
Ouais. Donc voilà.
Les anneaux de pouvoir.
Alors, bah on va continuer sur un petit morceau de musique.
Allez.
Alors attendez,
qu'as-tu
je
dans
regarde.
Mon panier
dans mon panier, j'ai Shuriken.
Ah, oh, samouraï.
Yes.
Ah, ça c'est un petit son old school.
Et ben on y va tout de suite sur Radio G.
Sur Radio G 101.5,
la radio qui fait le point. Et c'est parti, attention.
Jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claque pas des genoux, t'es viré de la cour, tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir, dès le plus jeune âge entraîné, à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres, les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes, en somme voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les caïds pour une bille, puis une fille, le poil s'hérisse, les dents graissent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal, la moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. Un champ barrage, la fierté, la loi, tue.
comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi. Tu comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby, carte grandit entre le fer et la foi. La foi, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui. Un billet pour le manège, gratuit, verrouillé. La nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 720 et tu touches des seins en lutte. Souvent on bute sur le pied du voisin, espace restreint. On gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches. Les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers. Ça peut gâcher la soirée, j'ai combattu. J'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu on se jettera dans la bataille. Pour l'honneur, comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi. Tu comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi. Tu comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.
Si je mets le micro, ça sera peut-être mieux comme ça.
Ouais.
Un petit peu.
On passe à la BD.
Ah, on passe à la BD.
Yo.
Alors,
je commence, tu commences.
Ouais, tu commences.
Allez,
tu voulais quoi comme petite horde du contrevent?
La horde du contrevent, donc la BD. Une BD, une bande dessinée d'Éric Hennio chez Delcourt. Adaptation du roman éponyme d'Alain Damasio, 3 volumes. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Citation d'Alain Damasio. Ils sont 23, forment leur 34e horde du contrevent et ont entre 27 et 43 ans. Dans un monde balayé par les vents, ils ont été formés depuis l'enfance dans un seul but, parcourir le monde d'ouest en est, de l'aval vers l'amont, à contre-courant face au vent, à travers la plaine, l'eau et les pics glacés, pour atteindre le mythique extrême amont, la source de tous les vents. Tous différents, mais tous unis, ils forment une horde autonome et solidaire qui avance dans un seul objectif, luttant constamment contre le vent, profitant du savoir et de l'expérience de 8 siècles d'échecs. On l'a dit, la meilleure et l'ultime horde, celle qui atteindra enfin l'extrême amont. La fin de la Terre. Le début de quoi ? C'est l'histoire de la 34e horde du contrevent. Composé du fer, du pack et des crocs. Leur but, de l'extrême aval remonter à pied vers l'extrême amont contre le vent qui souffle éternellement sur cette planète. Adapté du génialissime roman éponyme d'Alain Damasio, cette BD ne pourra que ravir les adorateurs de l'œuvre originale. Le pas est difficile à franchir. Doit-on laisser une adaptation détruire les représentations que l'on s'est faites lors de la lecture ? Peut-on prendre le risque d'être déçu et de perdre la magie de l'histoire originelle telle qu'elle vit encore dans nos souvenirs? La réponse ici est clairement oui. Il est entendu que cette BD n'est pas la mise en image du roman, mais elle n'en trahit ni l'esprit, ni même presque la lettre. Damasio lui-même, dont ne juge pas la valeur d'une adaptation à la fidélité du support original, on la juge à la qualité de sa trahison. Trahison réussie donc. Les personnages sont vivants et la souffrance. Les personnages sont vivants et la souffrance, la fatigue, le désespoir ou la détermination se lisent sur les visages. Même si j'avoue un petit regret sur Golgoth que j'aurais préféré plus mastoc, plus lourd, mais moins rond. Dans le texte est très fort, mais très accessible. On dira moins alambiqué. L'histoire commence. Oui, on ne peut pas, on ne vous a pas dit. Si la BD fait 80 pages, elle ne représente peut-être que 80 pages du roman originel. Apprêtons-nous à passer les prochaines années à attendre désespérément la suite. Nous n'avons que 3 volumes, donc il nous en manque pour terminer la saga. Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas encore aimé Alain Damasio, La Horde du Contrevent, qu'importe. Si vous aimez la BD, vous aimerez La Horde du Contrevent de Éric Agnew. Voilà, je vous conseille vraiment cette BD. Il y a un graphisme qui est sublime, très inspiré du manga. Notamment, le vent est très bien rendu dans ses variables, ses variantes ou ses formes. Il y en a 9 selon un Damasio. Voilà, je vous conseille cette très belle BD. Donc, je vous rappelle, La Horde du Contrevent, Éric Agnew, chez Delcourt, 3 volumes. Merci à vous.
Un petit coucou à Adrien. Adrien qui participait à l'émission il y a quelques années, qui est un grand fan d'Alain Damasio et de La Horde du Contrevent. Voilà.
D'accord.
Excellent. Salut Adrien.
Alors moi, je parlais d'une bande dessinée qui nous touche particulièrement, puisque on avait déjà reçu dans l'émission il y a quelques années, déjà, au moins 3 ans, les auteurs du premier tome, puisque c'est la bande dessinée sur Angers. Le tome 2 vient de sortir, ça fait un petit mois qu'il est sorti à peu près, de Du Bellay à nos jours. Et dans ce deuxième tome, tant attendu, parce que c'est vrai qu'on l'attendait avec impatience quand même, de l'histoire d'Angers, en docu-BD. On va pouvoir visiter donc la cité d'Angers aux côtés du poète Joachim Du Bellay, assister à la préparation de l'édit de Nantes, participer au siège de la ville avec les Vendéens, faire connaissance du sculpteur David d'Angers, finalement, parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas tant que ça.
Il faut aller à la galerie David d'Angers à Angers.
Ouais. Et on va revivre l'épopée de la maison Cointreau, et on va découvrir comment Angers...
Avec modération.
Et comment Angers devint pour un temps la capitale de la Pologne. Donc voilà, ça, on a toute la période, qui nous manquait maintenant, qui est donc comptée dans cette bande dessinée toujours aussi surprenante.
Les auteurs, qui sont les auteurs, Seb ?
Alors, les auteurs, parce que bien sûr, le principe, c'est qu'on n'a pas qu'un seul dessinateur, voilà, on en a plusieurs.
Mais il y a quand même
il y a donc,
un coordonnateur.
Oui, le scénario, c'est Julien Moka. Voilà. Qu'on avait reçu.
Peut-être qu'on va l'inviter.
Effectivement. On a comme dessinateur Nathalie Baudin, Thierry Jollet, Sylvain Lauprêtre pour des couleurs, aussi Adrien Lepage, Damien Geoffrey.
Est-ce qu'il y a notre ami Jean-Claude Bauer ?
Eh bien non, il n'y a pas Jean-Claude.
Pas cette fois.
Franche Juteau, qu'est-ce qu'on a encore ? Dominique
Enbeau.
Oui, je vais tous les citer.
C'est bien.
Rudy Lespinet, Franche Juteau encore une fois, et François Salambier, qui ont donc participé à ce deuxième tome.
Super.
Et qui se lit avec impatience.
C'est bientôt en GBD ?
Oui,
c'est
ça doit pas tarder. C'est toujours en fin d'année, normalement.
Intéressant. On va prendre des contacts.
On va faire dédicacer des BD aussi en même temps. Alors, une autre série qui vient de commencer, de Fourquemin et Outière. Donc, le scénariste Fourquemin et Outière. On a donc le scénariste de La Guerre des Lulus. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui,
très, très bonne série sur 14-18.
Je crois qu'ils veulent en faire un film.
Oui, ça ne me surprendrait pas non plus.
D'accord.
Là, on part à l'époque moderne avec Révolutionnaire, le tome 1, Les Princes Misères. Donc voilà, l'histoire se passe en 1792 à Nantes. Menacé par son oncle, le marquis de Valoir, Céline trouve refuge dans un quartier populaire. Pour récupérer son héritage, la jeune aristocrate, devenue orpheline, ne pourra compter que sur ses nouveaux camarades d'infortune, Pince-Mitraille, Titor et Mélina. Plongée dans le tourment de la Révolution française, c'est dans l'égalité et la fraternité que les 4 enfants vont devoir lutter pour leur liberté. Et donc on prévoit déjà d'apparaître le tome 2, Le Grand Désordre de l'an 1. Donc ça, c'est carrément génial parce qu'on a une intrigue policière aussi en même temps, qui se couple finalement avec la grande histoire avec un grand H. Et puis c'est vrai que c'est une petite sonorité particulière parce que on retrouve Nantes, la ville de Nantes à l'époque révolutionnaire.
La grande histoire avec une une grande hache.
Avec une grande hache. Un grand couperet. Donc voilà. Alors, Révolutionnaire de Fourquemin Autière, c'est aux éditions Le Lombard. Angers de Dubellay à nos jours, c'est aux éditions Petit à Petit.
Donc, et la Horde du Contrevent.
Et la Horde du Contrevent.
Et chez Delcourt.
Voilà, voilà.
Merci, vous avez
tout.
Les gars.
Merci, vous savez tout, vous savez tout, vous avez tout.
Musique.
Un petit peu de musique. Alors, qu'est-ce que vous voulez?
Ce qui te fait plaisir, ça.
Bon, allez, le dernier, Wax Taylor.
Wax Taylor. Excellent.
Allez, c'est dans le dernier album.
Et DJ, qu'on aime beaucoup.
C'est parti.
En Big Mafia sur Radio G.
Radio G, 101.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti maintenant.
Move slow, and we're riding, dust to dust, read what you saw, how the saying goes, dust to dust, dust to dust, but time moves slow, slow. Your fears can only live when you give them breath, given strength, can tip the scales, you'll be the bravest yet. See yourself from a different frame of reference, a cold world, frozen toes, numb on every step. Where nothing's permanent, everything eventually submits and bows low under the hand of gravity. Light work on inner self, lab coats find God, space, hell, asteroids, and certain death. While within, the sacred spiral spins, divine symphonies that are harmonized only by Saturn's rings. Inside your lungs lies the power of the wind, heart and mind made to follow the might of your will. The severed limbs still told to reach for the stars, with no arms to battle, still expected to spar. We've come so far since descending from spark, a field of yellow halos, faces turning to rock. And we're running, running, dust to dust. All the lights on, but there's no one home. Dust to dust, to dust, to dust, to dust. The night moves slow, and we're running, running. Dust to dust, read what you saw, how the saying goes. Dust to dust, to dust, to dust, to dust. But time moves slow, big brother wants your soul crushed. Can't believe you made a star, that's just wanna make that strong voice stutter. Won't rest until your body lies under eyes closed like shutters, with 6 feet of soil as bed covers. Dreaming of a hereafter, face to face with hidden masters, pondering on questions with no answers. Less cures than cancers, the poor man's anthem, downtrodden, face first in the asphalt. Facts are that fear is the killer of your mind's guards, before any surrendering of arms. What's the difference between industries and prison yards? Where the wants for psychological scars? Is the sleeping mind dreaming the distraction and confusion? Reflection in the mirrors, neither riddle an illusion. Rather than exuded, keepers of the gates get consumed by the power they misuse. Hubris, 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 hubris.
And we're running, running, dust to dust. Saw the lights on, but there's no one home. Dust, dust to dust. Black thoughts on a star line like Marcus's. Dust to dust to dust. Dust to dust to dust. Shine a light where the darkness is. Dust to dust to dust. Dust to dust. Black thoughts on a star line like Marcus's.
Et voilà, c'était Wax Taylor, Dust to Dust.
Eh oui, eh oui,
c'est déjà la fin de cette
émission. C'est déjà la fin, malheureusement.
C'est pas vrai. On se retrouve dans 15 jours, heureusement.
Oui, bah oui, tout à fait.
Le 30.
Le 30, ben non, mais moi je serai pas là. Mais...
Oh, bah, j'espère que Romain sera là.
Ben oui, ben, il pourra me charrier, là, ça sera son tour. Hein, direct.
Chacun son tour.
Chacun son tour.
Ça tourne.
Ça tourne, et puis voilà.
Le vent tourne.
Restez à l'écoute de Radio G.
Oui. Mais oui, les amis.
C'était Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture.
Dans quelques instants, dans quelques minutes.
On se retrouve dans 15 jours, les amis.
Dans quelques minutes, on aura nos amis de Rudy's Back.
Ils arrivent.
Ils arrivent.
Ils sont là.
Ils sont là. Je lance le générique et c'est
on
parti.
Vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.
Ciao,
salut.
Ciao. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide.
Radio FM.